right. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, nos deux ponts fonctionnent. Montréal, c'est une catastrophe. Le pont Jacques-Cartier qui a été pris d'assaut par des groupes environnementaux. Un qui est un peu plus dangereux que l'autre. L'autre, c'est extrêmement pacifique. Et un des deux gars qui est sur le pont Jacques-Cartier est un peu plus problématique depuis des années. Mais cela dit, on va suivre ça pour vous autres parce qu'on sait qu'on a des auditeurs qui sont en direction de Montréal et qui veulent bien savoir qu'est-ce qui se passe. Mais évitez le pont Jacques-Cartier à tout prix là, si vous en allez là parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller jouer de la musique en haut.
Ouais.
Pour la planète.
Pour la planète. C'est arrivé à Québec il y a de ça quelques années. En fait, c'est arrivé plusieurs fois, mais il y a une fois, entre autres, où des gens avaient grimpé sur... En fait, c'est un gars qui avait son drapeau du Québec, qui avait sa guitare, puis qui est grimpé sur les genres d'arceaux là, du pont Pierre-Laporte.
Ouais.
Puis ça avait fermé le pont pendant une couple d'heures. Ça avait été catastrophique à ce moment-là. Écoute, moi j'étais pogné là-dedans, j'étais pogné sur la rive
sud. Ok, t'étais là toi?
Oui, mais j'étais sur le bon pont, je passais par le pont de Québec à cette époque-là, ce qui faisait en sorte que je savais que j'allais pouvoir passer, mais de l'autre bord. Tu sais, quand t'es la voiture qui s'est fait arrêter par les policiers pour dire « vous, vous allez attendre ».
Oui.
t'es là.
T'as la voie libre devant, là.
C'est ça.
Mais tu peux pas y aller.
Puis t'attends. Fait que, tu sais, Montréal, quand il y a un pont fermé, le pont Jacques-Cartier surtout, qui est très achalandé, Montréal, c'est la moitié du Québec. Hein. C'est 4 millions. Là, quand tu regardes là, Montréal et les alentours, tu comptes l'île, c'est à peu près 2 millions. Mais pour le reste, autour, c'est à peu près 2 millions de plus. Puis on est 8,5 millions au Québec. Fait que quand il y a un pont qui est fermé, ça occasionne bien des problèmes. Même affaire pour ce qui est de la ville de Québec. Quand ils ont fermé le pont de Québec, puis il y avait des petits accrochages sur le pont Pierre-Laporte. c'est pas facile. C'est pas facile.
Est-ce que je peux paraphraser Marie-Chantal Toupin?
Oui.
C'est un maudit bordel!
qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait créé des accidents, hein, je me trompe pas. Au début de sa carrière, quand elle commençait à être connue, je pense que c'était son premier album, c'était « Regardez-moi dans les yeux », quelque chose du genre. Elle était posée en camisole blanche, puis elle avait une affiche géante sur le bord de l'autoroute. Puis je pense que, je ne veux pas trop m'avancer, je pense que c'était un kit à quelques milliers de dollars qu'elle avait fait poser des dernières années.
Aucune idée.
Ça sautait aux yeux!
Voilà!
Mais bref, au moins je me souviens du nom de l'album, je me suis amélioré.
Pour vrai, tu m'impressionnes, tes connaissances de la culture québécoise sont sans pareil.
Mais des fois, ça dépend de la présentation, comment c'est présenté. Tu vois, quand c'est bien présenté, normalement j'ai tendance à me souvenir.
Et voilà.
Ouais,
t'es un gars visuel, en fait, c'est ce que je retiens.
Très visuel.
Très visuel.
Oui.
Bonne mémoire visuelle.
Oui, oui. Ben, les gars sont un peu comme ça. Là. Je te dirais, quand l'affiche est correcte, c'est comme on est. Ah, OK. Ouais, je suis touché par la publicité. C'est...
Oui. Merci beaucoup pour ton ouverture sur la culture québécoise, Yannick. C'est très agréable.
On a failli rater notre show en passant.
C'était tellement drôle. On est dans l'espace commun ici à Job. J'ai mon café, mon ordi dans les mains. Tout est assis. On commence à parler de Apple Watch puis de toi qui regardais toujours tes battements de cœur au début quand tu l'as eu un peu hypochondriaque.
Avec mon Apple Watch. Ben oui, mais c'est ça que ça fait, hein. Quand tu cours, tu regardes ton pouls. Après ça, tu fais des électrocardiogrammes. Après ça, tu regardes le nombre de kilomètres que tu as fait. Puis on dirait qu'après un mois, deux mois, tu te dis « Ah, j'ai payé peut-être un peu trop cher pour rien.
Bon, » à un moment donné, on s'habitue. Au début, t'es comme « Ah, OK, il faut que je complète tous mes anneaux. Il faut que je fasse tel nombre d'entraînements, tel nombre de pas par jour. » Puis à un moment donné, ça descend. Puis là, on est en train de jaser de ça. Puis Max nous regarde. Il fait « By the way, les amis, il est 10 heures. Part à course en studio. » Donc, c'est la raison pour laquelle on vient d'arriver sur Twitch. D'ailleurs, là, je salue tous les Twitchers. On est arrivé sur la fesse pour notre émission.
Tu es à fesse, puis pas pire aujourd'hui. On va parler de quoi?
Aujourd'hui, on va avoir à l'émission deux personnes qui vont nous parler de l'histoire du policier Dupont, une histoire qui a beaucoup fait jaser, particulièrement dans le coin de Trois-Rivières. Donc, on va pouvoir parler à deux personnes, dont le fils de Monsieur Dupont. Et c'est le seul enfant qui est toujours en vie, d'ailleurs, du policier Dupont.
Ouais. Puis cette famille-là se bat depuis des années pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis pour faire avancer l'enquête. Donc, ils vont être avec nous. Écoute, à Trois-Rivières, là, moi, j'ai pas été souvent à Trois-Rivières. J'ai été peut-être deux, trois fois. Les trois fois où j'y étais, on m'avait parlé de cette histoire. Là. Puis lorsque je faisais des tribunes libres à Québec, des tribunes libres à la radio, une fois de temps en temps, il y a des gens qui m'appelaient pour parler de l'affaire du pont.
Ah, ouais.
Fait que ça a resté dans la tête des gens comme pas pire.
Pour ceux qui auraient peut-être jamais entendu parler de cette histoire-là, je suis sur ici, tout.tv, où est-ce qu'il y a une petite série qui a été faite sur le sujet. C'est en deux parties. Le 10 novembre 1969, le policier Louis-Georges Dupont est retrouvé mort dans son véhicule de service. L'enquête, bouclée en quelques heures, conclut à un suicide. Les éléments de preuve seront classés et l'affaire close. Pourtant, la mort du policier Louis-Georges Dupont continue de faire les manchettes, car sa famille, qui réfute la conclusion de l'enquête, mène depuis 50 ans un long combat afin de faire la lumière sur les faits. Un dossier captivant où l'on tente de comprendre ce qui est arrivé à ce policier sans histoire.
Voilà, donc ils vont être avec nous vers les entours de 10h20. Sinon, ça devrait être annoncé aujourd'hui, Québec qui songe à abolir le changement d'heure. Est-ce une priorité pour vous autres? Parce que là, pour l'instant, on est quand même capable de faire nos journées. Là. Je te dirais que le soleil commence à se montrer vers quoi? 6h30
environ,
oui. 6h30.
6h30, il faisait noir, mais on voyait une petite lueur qui se levait tranquillement ce matin.
Et là, il y aura un prochain changement d'heure qui sera dans la nuit du 2 au 3 novembre prochain. Puis on se pose la question, est-ce que ça va être le dernier? Bien, il semblerait que dans les prochaines heures, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, va faire l'annonce que c'est terminé. Ça va être la dernière année où on va reculer l'heure.
J'ai une question pour toi, puis j'ai une question pour les auditeurs. Ça va être mon premier changement d'heure avec un enfant qui n'est pas un petit bébé naissant qui ne se rend pas trop compte de son environnement, là, tu sais. Ça fait-tu tant que ça une différence avec les enfants, le changement d'heure?
Ben, moi, j'ai pas remarqué ça. C'est sûr que, tu sais, moi, ce que je remarque surtout, là, puis peut-être que je devrais m'armer d'une équipe de scientifiques pour étudier ça. La fin de semaine, mes gars se lèvent à 6h, 6h30 sans aucun problème. Ils vont dans la cave, ils vont dans la salle de jeu. Mais quand je les réveille à 6h30 pour l'école la semaine, c'est dur.
Ça, faudrait mettre des scientifiques.
Ils sont fatigués. Je sais pas. Tu penses-tu que... Y a-tu des scientifiques assez... assez bon pour se pencher sur ça?
Je sais pas. Je pense que ça prend des gens avec une expertise vraiment remarquable. Mais j'ai quand même deux pistes de solution, ou du moins deux questions à te poser sur le sujet. Premièrement, est-ce qu'il se couche tard la fin de semaine?
Il se couche tard le vendredi, il mm-hmm. se couche moins tard le samedi, puis mm-hmm. il se couche encore moins tard le dimanche.
OK. Ouais. Je trouve que c'est une bonne technique. On va écarter ça des raisons. Mm. Et sinon, est-ce que tu penses que la fin de semaine, c'est parce qu'ils ont juste vraiment hâte d'aller jouer à leurs jeux vidéo, à leurs tablettes, de sortir dehors, de voir les amis? Puis la semaine, c'est beaucoup moins tentant d'aller à l'école.
C'est une énigme. Mm-hmm. Ouais, c'est comment faire pour la résoudre? La résoudre, il faudrait que ce soit des scientifiques qui se penchent là-dessus. J'ai probablement les deux enfants les plus incroyables de la Terre. Ils sont très différents l'un de l'autre, mais sont particuliers sur ça. C'est que la fin de semaine, se lève à 6 heures sans aucun problème. Mais la semaine, l'élever à 6h30, c'est un calvaire. Est-ce que la lumière fait une différence dans ta vie, oui ou non? Parce que c'est ça, là, l'histoire du changement d'heure.
Ben oui. C'est sûr, je pense que ça affecte un peu le moral. Puis ça va beaucoup dépendre aussi de l'horaire d'une personne. Les gens qui se lèvent très tôt le matin, je pense aux gens qui sont dans le domaine de l'agriculture ou encore la construction, je pense que ça a plus un effet sur eux, le changement d'heure, que sur quelqu'un qui se lève à 7 heures puis qui se couche à 22 heures. Là, t'sais.
Question quiz par texto, les amis. Répondez oui ou non, 418-971-1021, à la question suivante. Y a-t-il un bénéfice à changer l'heure deux fois par année d'un point de vue santé physique ou santé mentale?
Ah.
Puis là, on s'entend, là, faut que vous dormiez le même nombre d'heures.
Oui.
OK. Selon toi, y a-t-il un bénéfice à changer l'heure deux fois par année d'un point de vue de santé physique ou mentale? Moi, avec aucune connaissance scientifique, je te dirais oui.
Okay.
On dirait que de reculer l'heure, ça me vient me jouer pendant quelques jours dans le corps un peu.
Mm-hmm.
Je suis un peu plus fatigué parce que là, mon horaire est comme chamboulé. À long terme, je le sais pas. Mais pour les premiers jours, j'ai tout le temps un peu de difficulté. Toi?
Si je vais de mon expérience personnelle, ça m'affecte pas trop, je te dirais. Mais il me semble que j'avais lu que le nombre de crises cardiaques était plus élevé suivant un changement d'heure.
Ben, peut-être avec la fatigue, mais écoute, moi, j'ai pas cette information-là. Ce que le docteur Roger Godbout mentionne, lui, il est directeur du laboratoire de recherche sur le sommeil de l'Université de Montréal, il n'y a aucun bénéfice à changer l'heure deux fois par année d'un point de vue santé physique ou mentale.
Bon.
Puis ce qu'il dit, c'est qu'à l'origine, le changement d'heure, c'était... on a décrété ça au début du siècle pour accroître la production pendant la Première Guerre mondiale. Puis le Québec a décidé de l'adopter en 1940, comme les autres provinces canadiennes au cours des années 50. Puis après ça, la Saskatchewan a embarqué là-dedans en 66, le Yukon en 2020. On a décidé de plus s'y conformer. Puis l'Ontario a aussi adopté une loi pour y mettre fin, mais elle n'est jamais entrée en vigueur. C'est ce qu'explique le docteur Godbout, parce que les autorités ne s'entendent pas sur les suites à donner. Eux, ils ont rebaptisé l'heure avancée comme étant l'heure normale. Et selon le docteur Godbout, ça, c'est une erreur.
Donc, à la base, ce serait plus économique que pour la santé qu'on aurait fait ce changement-là.
Bien, moi, je pensais, bien humblement, je pensais que c'était pour une question de chauffage. Tu sais, tu dors quand il fait noir, puis quand il commence à faire clair, le soleil arrive, puis tu montes un peu le calorifère pour avoir quoi, un genre de 20, 21, 22 dans la maison.
Ah, ça arrive
mais
plus.
La nuit, as-tu vraiment besoin de chauffer ça à 22 degrés? Moi, non, du moins. Là.
La meilleure température pour dormir, c'est 21 degrés, tout nu, en dessous des couvertes, avec des chaussettes. Puis ça, là, c'est pas ma pratique nécessairement, je mets pas de chaussettes, mais c'est dans un livre qui s'appelle...
Ça semble me voir avec ma longue, juste avec des bas de laine.
Oui, c'est ça.
Salut.
S'asseoir. La zone à l'air, mais avec les petits bas.
S'asseoir, c'est ton soir.
Dans le livre « Why We Sleep » de Matthew Walker, qui est comme la sommité du sommeil aux États-Unis, ils ont fait des études, puis comme tu le dis, on n'a pas besoin de chauffer beaucoup la nuit. 21 degrés, c'est la température idéale.
Deux, trois semaines à vivre de mon côté avec une légère petite dépression après le changement d'heure. Selon cette personne-là, c'est une dépression saisonnière. Donc, je crois que je parle à une femme par texto. Plus d'incidents sur les routes après les changements d'heure, selon des auditeurs.
C'est un homme qui nous écrit ça, c'est Kevin.
C'est Kevin?
Qui parle de la dépression saisonnière, oui.
Honnêtement, de plus en plus d'études sortent en disant qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à reculer par rapport aux déprimes et autres défaits. J'ai pas réussi à lire ton message, excuse-moi, il est parti. Et autres effets, voilà. Patricia, les gens sont plus fatigués pendant plusieurs jours et même pour moi. Quand je recule, je décale l'heure du dodo, je devance, car sinon ils sont de mauvaise humeur quand ils avancent. Eh bien, c'est le contraire, maman de fille de 5 ans et demi et un garçon de 16 ans.
Ah, merci beaucoup pour l'information. Parce que c'est ça, on dirait, mon petit stress cette année, il est plus concernant ma fille, là, à savoir si on va passer de se lever à 6h30 à 5h15.
Il y a un auditeur qui dit « Salut, je me réveille avec mon réveil la semaine et la fin de semaine, je me réveille aux mêmes heures sans réveil. » Ça fait ça à tout le monde, soit dit en passant. Puis je ne sais pas si vous avez la même particularité que moi, là, mais on dirait que quand je travaille, je sais les heures même quand je dors. Je peux me réveiller des fois une minute avant mon cadran.
C'est vrai, je suis pareil.
Puis il y avait des scientifiques qui s'étaient penchés sur les anciens cadrans, là, tu sais, avec la clochette. Là,
ouais.
Puis là, ben, ils amenaient comme hypothèse que c'est le mécanisme qui commençait à s'enclencher.
Ah, qu'on l'entendait.
Pour préparer comme l'alarme.
Mais
aujourd'hui, tout est numérique. T'sais. Ma montre, elle me réveille à 6 heures, mais normalement, 5h58, 5h59, mes yeux s'ouvrent tout seuls.
Mais biologiquement, on ne sait peut-être pas exactement il est quelle heure, mais on développe des habitudes. Puis c'est comme ça dès un très jeune âge. Si tu es habitué de te réveiller à telle heure, ton corps va s'activer, ton cœur va se mettre à battre un petit peu plus fort. Peut-être que tu vas avoir faim à telle heure. Si tu as l'habitude de boire un verre d'eau à telle heure la nuit, mais la journée où est-ce que tu n'auras pas soif, tu vas quand même te réveiller parce que le corps crée ses habitudes. Fait que je pense que c'est plus de là que ça vient. Là.
Peut-être. Mais tu sais, il y en a qui disent « Moi, je suis en dépression 6 mois par année avec le changement d'heure.
» Je sais pas si c'est un effet placebo, mais tu sais, on en parlait hier. L'effet placebo, s'il fonctionne... Ça fonctionne pareil. Les suppléments en vitamine D à ce temps-ci de l'année, quand la lumière diminue, ça peut vraiment faire une grosse différence sur le moral. Je pense que ça vaut la peine d'essayer.
OK. Fait que là, tu vas-tu, tu sais, ça c'est le 2 et le 3 novembre, tu vas-tu te coucher une heure plus tôt pour essayer de compenser?
Moi, je me couche quand je suis fatiguée, là. Puis c'est souvent très tôt. Fait que c'est ça que je vais faire. Je verrai. Mais tu sais, je suis pas du genre à compenser puis à tourner dans mon lit parce que je veux essayer de. Tu sais, non, regarde. Si je suis fatiguée, j'irai me coucher, puis ça finit là.
Okay.
Peu importe l'heure qui est.
Là, pour le changement d'heure,
ouais.
Si t'es dans un bar, le 2 et le 3, ça tombe quoi? Ça tombe une fin de semaine, ça? Ouais, c'est du samedi au dimanche. On recule l'heure. Ça veut dire qu'à 2 heures, il est 1 heure. Fait que techniquement, tu sors du bar à 3 heures, il est 4 heures.
Ouais. Fait que t'as 1 heure de plus d'un bar.
1 heure de plus d'un bar.
Ouais.
OK. T'es sûr de ça?
Ah non, là, c'est le moment où est-ce que tu vas essayer de me mêler. Ah.
Je l'ai jamais su, en fait. Je m'en rappelle jamais. Parce qu'il y a un moment de l'année où ils t'enlèvent l'heure complètement. Ça fait qu'à 2 heures, il est rendu 3 heures, tu quittes.
Ouais.
Fait que là, les restaurateurs perdent leur heure.
Uh-huh.
Mais là, ce moment-là, entre le 2 et le 3, là, du samedi au dimanche matin, ils vont regagner cette heure-là?
Oui, dans le bar, il reste ouvert. Là, parce que ça m'est déjà arrivé avec des amis de faire comme « OK, on sort! On a 1 heure de plus! » Oui, il reste ouvert jusqu'à... Ce qui est 3 heures à cause du changement d'heure, mais qui serait 4 heures si on était resté dans le même...
Ouais, ça fait partie des choses que je suis plus capable de faire. Là. Rester réveillé jusqu'à 4 heures du matin, là, je suis plus capable de le faire.
Je suis capable, mais je paye le lendemain.
Ouais, c'est ça. Ouais, tu payes avec la petite.
En plus!
10h16, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Jusqu'à maintenant, ça semble bien aller partout sur le circuit routier. La circulation qui est un peu dense ce matin, là, normalement, c'est lundi où c'est pire. J'ai l'impression que ce mardi, c'était aussi pire qu'hier.
Ah ouais, hein?
Ouais, ben ça dépend dans certains secteurs. Val-Bélair, là, tu sais, quand tu arrives à Val-Bélair, tu as déjà été à Val-Bélair?
Oui.
Il y a le McDo, là.
Mm-hmm.
Ben le trafic sur Henri IV commençait là.
Quand même.
Normalement, ils commencent plus bas sur Sainte-Geneviève, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, à quoi ils ont pensé à Val-Bélair, mais il y a des édifices à condos qui poussent comme de la mauvaise herbe.
Mais à cette lumière-là, c'est l'enfer.
Mais là, le système est plus adapté. Le réseau est plus adapté. Il va falloir qu'ils fassent une autre entrée puis sortie d'autoroute, peut-être, entre Montaulieu puis celle d'industriel, je pense, du McDo à Val-Bélair, parce que on sera plus capable dans quelques années de passer par là.
Le trafic commence super tôt dans ce secteur-là. En plus, là, avant même 7 heures, des fois, on commence à l'entendre à la circule avec l'émission du matin. Là, toutefois, je regarde sur la carte et ça se passe super bien dans tous les secteurs. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, 88...
971!
971, 102.
Voilà. Bob Bissonnette, Université sur Boulevard. T'as passé, j'ai déjà été... Audrey Pinchot qui est en vacances et Elodie qui est avec moi encore pour quelques jours.
Pauvre
toi. Je suis content que tu sois là.
Oh.
Parce que tu es capable de gérer le téléphone au grand complet.
Ouais, ben en général, ce qui est technique ici, ça va très bien.
C'est ça.
Hey, te souviens-tu de nos premiers moments en ondes ensemble quand tu découvrais le nouveau système de mise en ondes? C'était...
Bien, celui-là qu'on a là présentement, j'ai été familiarisé avec celui-là pendant 10 ans à peu près, j'étais correct.
Zeta, ça fonctionne super
bien. C'est l'autre
bien,
d'avant.
Mais je te parle des premières fois que t'es arrivé ici à Boulevard, puis justement, tu découvrais en onde un vieux système de mise en onde que tu connaissais pas.
Mais je me faisais penser à mon père qui demandait à son enfant, tu peux-tu m'allumer la télé puis me mettre ça au U?
Ouais, carrément, là, t'avais l'air de ça.
Tu peux-tu m'enregistrer le hockey? J'aimerais ça l'écouter. Tu peux-tu... mettre ma cassette, là, mon film préféré, Rambo 1. C'était moi qui étais chargé de ça. Ben là, toi, si tu fais ça maintenant pour moi, je vieillis, hein?
Ah non, mais écoute, maintenant, tu te débrouilles très bien. Et justement, on dit ça parce qu'on a 2 personnes au bout du fil aujourd'hui.
Voilà. Hey, on parle d'une histoire qu'on entend parler depuis des années, des années. Écoute, 1969. Fait que maintenant, ça fait quoi? Ça fait 30 plus 24, ça fait 54, 55 ans. Que ça a débuté, cette histoire-là, qui est une histoire très malheureuse sur la finalité, bien entendu. Puis il y a une énigme là-dedans qu'on n'a jamais réussi à connaître. La famille de cet individu-là, qui est un bon policier, cherche encore aujourd'hui à avoir des réponses à leurs questionnements. C'est le 10 novembre 1969 que le policier Louis-Georges Dupont a été retrouvé mort dans son véhicule de service. L'enquête a été bouclée en quelques heures. Et l'enquête dit, M. Louis-Georges Dupont s'est suicidé et il y a des éléments de preuve qui vont être classés très rapidement et l'affaire a été close. Donc, les policiers, de leur côté, ne voulaient plus en parler. Par contre, pour ce qui est de la famille, c'est autre chose. La mort du policier Louis-Georges Dupont continue de faire les manchettes. On réfute du côté de la famille la conclusion de l'enquête. On parle d'un long combat pour faire la lumière sur les faits. Puis on a le plaisir d'avoir 2 personnes au téléphone présentement. J'ai le fils de M. Dupont, Robert Dupont, qui est le fils de Louis-Georges Dupont, et Denis Foucault, qui est le porte-parole, lui, de la famille. On va commencer avec M. Robert Dupont. Bonjour, M. Dupont, comment allez-vous aujourd'hui?
Ah, ça va, ça va.
54 ans et vous vous posez encore une multitude de questions sans voir vos réponses.
Ben 55 ans, là, bientôt au mois de novembre. Là, ouais.
Exact, exact.
Oui, ben, on avait eu des jugements puis des commissions d'accès à l'information. Tout le monde avait donné raison jusqu'à temps qu'on arrive devant une commission d'enquête qui n'a pas été correcte.
Vous aviez quel âge au décès de votre père?
Moi, j'avais 14 ans.
Vous aviez 14 ans, donc vous vous en souvenez comme si c'était hier, cette journée-là où on vous a annoncé que votre père était malheureusement décédé.
Bien, c'est sûr que c'était... Mon père était disparu 5 jours. Fait que dans la maison, là, c'était 5 jours là, à se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Ça va jamais arriver, ça. Fait que c'était bouclé, comme tu dis tantôt, bâclé par les policiers Ripoux là, qui ont été destitués un mois après la mort de mon père, les mêmes qui ont fait l'enquête sur sa mort.
Ouais.
Je comprends pas comment la Sûreté du Québec peut continuer à cautionner ça.
Monsieur,
je comprends pas ça.
Monsieur Foucault, on me dit que Louis-Georges Dupont a enquêté sur certains collègues dans la police de Trois-Rivières. On me dit aussi qu'il aurait enquêté sur la mafia. Racontez-moi un peu l'affaire Dupont dans son ensemble.
En fait, l'origine dans tout ça, c'est qu'il y a un conseiller municipal, Gaston Vallière, qui voyait qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond dans la ville de Trois-Rivières. Puis, ça a été un lien comme ça qui s'est fait auprès de Louis-Georges Dupont parce qu'il était un policier de confiance. Et c'est ça qui a fait en sorte que Louis-Georges Dupont a été mêlé à cette affaire. Donc, comme le dit Robert, c'était une enquête qui a été bâclée. Parce qu'il y a eu une vision tunnel, fort probablement d'une personne qui a été suspectée, qui est Jean-Marie Hubert, qui était à l'escouade de la moralité. Donc, dans le fond, lui, il se trouvait à l'escouade de la moralité. Donc, c'est assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de prostitution et de corruption dans la ville de Trois-Rivières à ce moment-là. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, à Montréal, on avait fait un certain nettoyage avec Pax Plante.
Oui.
Et ça s'est finalement propagé vers la ville de Trois-Rivières, vers l'est, le déplacement de la corruption. Donc, c'est comme ça, comme tel, que ça a commencé à la fin des années 60.
Donc, M. Dupont aurait vu ses collègues être impliqués dans la prostitution. Et si je ne me trompe pas, cette prostitution-là de Trois-Rivières, c'était lié là, dans l'affaire du clan Cotroni.
Exact.
OK. Qu'est-ce qui vous fait penser que les résultats de l'enquête ne sont pas bons? C'est quoi les éléments qui sont ressortis que vous vous dites ça a vraiment pas de bon sens?
Ben comme je sais pas si tu as vu le documentaire puis le balado puis de M. Berthomet puis tout ça, là, son livre. Mais dans l'auto, quand on trouvait mon père, il n'y a pas de sang. Quand il était sorti du char, il n'y a pas eu d'expertise sur l'auto. Les mêmes policiers, comme Denis vient de dire, c'est eux autres qui font l'enquête. Là, il est amené à Montréal devant un pathologiste, Dr. Wood, qui n'est pas pathologiste. Son autopsie est sommaire et incomplète, ça c'était dit. Mon père il est en rigidité. La lividité ne correspond pas avec quand il est retrouvé dans l'auto. Il n'a pas ses lunettes. Il n'est pas habillé de la même façon quand il est parti de la maison. Il y a des traces de pneus en avant de la voiture. Puis la voiture, supposément, elle dit que c'est à 5 jours qu'elle est là. Puis il a mouillé pendant 5 jours. Il n'y a pas d'empreinte sur l'arme. Les balles qui sont dans l'arme ne concordent pas avec la balle qu'il aura supposément retrouvée. Il y a des balles chemisées dans l'arme. Les autres disent qu'elle a retrouvé une balle de plomb. Puis là, avec le dénouement qu'on a fait, ben là, les ceux qui avaient dit qu'ils avaient retrouvé une balle, ils se sont parjurés. Là, ils ont dit qu'ils n'en ont pas retrouvé de balle. Fait que ça, tout le monde est impliqué au poste de police pour cacher un meurtre. C'est ça qui est arrivé.
Y a-t-il des gens à la Sûreté du Québec qui ont décidé de vous aider, la famille Dupont? Parce que de
non.
Ce que j'ai vu dans l'affaire Berthomet, c'est que il y avait comme un froid, là, la Sûreté du Québec. Avec
Mais non, c'est moi et mon frère qui étaient accusés.
Ils vous ont accusé pourquoi?
Parce qu'il disait qu'on avait falsifié des photos et qu'on avait falsifié la preuve. Devant la commission de la montagne, il y a des personnes qui sont venues témoigner que mon père aurait une deuxième balle à côté de l'omoplate. En avant, elle n'a pas tenu compte, puis elle a plutôt ordonné de déterrer mon père avec le docteur Baden. Puis dans le documentaire, c'est montré, puis on dit qu'il n'y en a pas de trop dans le sternum, mais ça se donne après ça qu'il y en a eu un. Tout est fait pour protéger les erreurs de l'Institut médico-légal en 69. Aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, là, des erreurs de même, ça ne pourrait pas arriver. Parce que ce serait un autre corps policier qui ferait l'enquête. Puis, avec toutes les technologies qui possèdent l'Institut médico-légal, c'est impossible que ça arrive. C'est les erreurs qui sont continues à protéger. La preuve, elle démontre que Mon père a eu deux balles, là. Mais on va le... prochainement, Denis peut te l'expliquer. On va procéder avec ça, là.
Allez-y, M. Foucault.
Oui, parce qu'il y a de l'information qui n'a pas transité en commission d'enquête. Parce qu'au départ, il faut savoir que s'il y a eu une commission d'enquête au milieu des années 90,
ouais.
Commission d'enquête que j'avais suivie à l'époque comme journaliste, là, donc c'est pour ça que j'ai un intérêt particulier par rapport à la famille. Là, maintenant, je ne suis plus journaliste, donc je suis détaché de tout ça. Je peux agir de façon neutre et accompagner la famille. Mais la commission d'enquête, c'était à la suite d'un jugement qui avait été rendu et qui avait, au niveau de la conclusion, le juge Yvan Saint-Julien avait vraiment parlé de meurtre. Et là, il voulait qu'on éclaircisse cette question-là au niveau du meurtre. Alors que ça a été reviré comme tel en commission d'enquête, où, comme le dit Robert, il y a un document qui n'a pas été présenté et que là, nous allons faire valoir au gouvernement qui fait en sorte que la Sûreté du Québec savait qu'il y avait une deuxième balle. Alors, si une personne se suicide, c'est assez particulier qu'il y ait deux balles dans un corps et qu'on se retrouve avec une balle près de l'omoplate et une autre balle où les experts se confondaient, à savoir au niveau de la plaie d'entrée. Alors, est-ce que c'est entré par l'avant ou par l'arrière? Donc, on comprend que lorsqu'il y a un trou dans le bas du dos, ben on peut pas en arriver à se tirer dans le bas du dos. Alors, si la balle est entrée par l'avant, mais dans l'angle que c'est placé, ben il aurait fallu que le revolver soit placé complètement au-dessus de la tête. Alors, on sait que les policiers interviennent souvent dans des questions, justement, de suicide. Et lorsque une personne veut s'enlever la vie, les policiers, s'ils savent, ils se tirent soit dans la bouche ou ils se tirent directement dans la tête.
Est-ce qu'il reste encore des gens vivants de l'époque qui ont côtoyé votre père puis qui décident de parler aujourd'hui en 2024 où tous ces gens-là ont disparu?
Il y en aura encore.
Il y en aura encore?
Mais c'est la loi du silence, c'est ça qui arrive, là. Tout le monde se protège là-dedans, puis là, mon frère est décédé. Mon frère, c'est lui quand même qui a fait toutes les demandes administratives, puis qui avait identifié mon père, puis que lui a fait tout ce qu'il fallait, là. Moi, j'ai participé, on était deux là-dedans, là. Puis avant ça, ma soeur Joanne, qui était très proche de mon père, qui disait tout ce que mon père a vécu là, dans la même semaine avant de disparaître, là, des chars noirs autour de la maison, il était poursuivi, il avait dit à plein de monde que c'était à cause de son témoignage devant la commission de police que c'est haut à compter. Bon, ben aujourd'hui, on continue à défendre ça, là. Mais comme Denis vient de dire, il y a des preuves, il y a de l'omission de preuves. Ça a été fait devant la commission de la montagne, il y a des personnes qui ont témoigné devant elle à cet effet-là, puis elle n'a rien retenu. Ma mère qui est le premier témoin, elle dit, mon mari est père de Jean-Marie Hubert et de Robert Gignac. Robert Gignac, c'est un des bras droits de Lucien Rivard. Lucien Rivard, là, je pense que le monde, il le connaît, oui. Ça. Bon, ben, Robert Gignac, il est évadé de prison, puis il était avec Jean-Marie Hubert. Mon père, il a dit à ma mère, pendant une semaine de temps, j'ai peur de ces deux personnes-là. Mais ça reste là. Écoute, c'est de la pègre, là. C'est sérieux, là. Puis la police était complètement corrompue. Puis la Sûreté du Québec continue à dire que c'est nous autres qu'on fait ça pour rien. Là, maintenant, tout a été fait devant le juge Saint-Julien. Il a retenu, lui, que c'était un meurtre. Mais ceux qui sont venus faire la commission d'enquête, ceux qui avaient perdu devant le juge Saint-Julien, c'est les mêmes des personnes interposées qui sont venues faire l'enquête pour défaire le jugement. Parce que notre jugement, au niveau d'un médico-légal, ça c'est l'avocat qui l'a dit, il faisait jurisprudence au Québec. Il n'y en avait pas de cas comme nous autres. Puis le Dr Wood, il n'est pas pathologiste accrédité. Encore moins pathologiste judiciaire. Puis quand il a témoigné en 96 devant la commission, il ne savait même pas la nature des blessures que mon père avait. Il ne savait pas en avant ce que c'était la blessure, ni dans le dos. Il l'a avoué. Puis après ça, il demande si c'est possible que ça y ait un homicide. Il dit oui. Puis on me dirait que M. Dupont, il est mort la veille, je le croirais. Fait qu'il est venu faire des aveux devant la commission, savoir qu'il avait manqué son autopsie. Mais elle, en avant, était là pour protéger les erreurs. C'est ça qui n'est pas compréhensible. C'est pas comprenable.
Mais tout à l'heure, vous parlez de la rigidité cadavérique de votre père lorsqu'on a fait l'autopsie qui ne concordait pas avec son heure de décès. Vous parliez de la balle aussi qui ne correspondait pas avec les balles qui étaient dans l'arme. Vous parliez de véhicules noirs qui vous suivaient. Qui était dans ces fameux véhicules noirs-là?
À l'entour de la maison, chez nous, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné là-dessus.
Ouais.
Il y avait deux véhicules qui se plaçaient à côté de la maison. Puis c'était des véhicules avec deux personnes dans chaque véhicule. Puis c'était des gros chars noirs. Ma mère, ma soeur, des amis de ma soeur, puis tout, ils ont témoigné là-dessus. Puis ça, c'est des chars, c'est pas des chars de police, là. C'est des chars de la PEG qui surveillaient la maison. Puis mon père, comme je t'ai dit tantôt, était disparu 5 jours.
Ouais.
Puis il n'est pas retrouvé avec son habit gris, c'est en vendeur. Il a retrouvé qu'une vieille habit beaucoup trop grande pour lui. Il a le nez cassé. Si tu verrais la face de mon père, là, il y a un train plein de boîtes. Supposément qu'il est parti du poste de police. Il est allé s'enlever à vue sur le boulevard Saint-Jean. Mais il est retrouvé avec un train plein de boîtes, le nez cassé, une blessure à la bouche, puis c'est pas ses vêtements. Puis ça, ben, on n'en tient pas compte. Ça, c'est nous autres qui dit ça. Ben, c'est nous autres. C'est sûr, c'est nous autres, c'est notre père.
Oui. Monsieur ouais. Dupont, ça fait 50 ans que vous vous battez pour connaître la vérité. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez la connaître un jour? Y a-t-il des gens à la Sûreté du Québec en qui vous avez confiance, qui un jour ou encore aujourd'hui regardent un peu l'affaire Dupont en disant « Moi, un jour, je vais la résoudre, cette énigme-là? »
J'en ai rencontré une couple de policiers. Puis quand je les ai montré l'affaire de mon père, c'est vrai que ça ne marche pas. Ben, j'ai dit « Pourquoi tu nous aides pas? » Ben, moi, tu comprendras, hein. Non. C'est ça, là. Il y a la loi du silence dans la mafia, il y a la loi du silence dans la police. C'est ça qui marche pas, là. Moi, je suis sûr qu'il y a des bons policiers au Québec, parce qu'on est rencontré une couple, ils sont d'accord. Mais ils viennent dire que moi, t'as vu. Ben, Robert, vas-y, continue, toi. Nous autres, on peut pas. Ben oui, mais écoutez, c'est vous autres qui avez porté serment, là. C'est vous autres, la police, c'est pas moi, là. Nous autres, on continue à dénoncer, mais comme je t'ai dit tantôt, là, on a passé notre vie, Hey, es-tu obligé d'aller à la TV, compter notre vie pour avoir la justice? C'est-tu normal au Québec, ça?
Non, effectivement, c'est pas normal.
Ah, c'est ça qu'on a fait.
Monsieur Foucault, est-ce qu'il va y avoir du développement? Est-ce que les politiciens s'intéressent à cette affaire-là? Est-ce que, je sais pas, moi, Simon Jolin-Barrette pourrait revoir l'affaire Dupont et dire, attendez un peu, là, moi, je regarde les conclusions de l'enquête sur l'affaire Dupont, je regarde les conclusions du médecin, l'autopsie et tout ça, il n'y a rien qui concorde, mais on va essayer de réécrire l'histoire parce que, visiblement, il y a des erreurs qui ont été faites. C'est-tu possible en 2024, ça, monsieur Foucault?
Ben, on est rendu là. C'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, nous, de la façon qu'on a réagi, lorsque le documentaire de Stéphane Berthomé était présenté en décembre dernier, on est allé vers la ville à ce moment-là. Le premier élément, c'était ça, parce qu'il y avait une question aussi de commémoration. Alors, nous, c'était dans ce sens-là. C'était pas de piéger la ville. C'était pas à la ville d'en arriver à décider s'il y a meurtre ou suicide. C'est du côté du gouvernement du Québec. Donc, on est allé du côté de la ville. Et là, du côté de la ville, le directeur de police, lui, s'est bien rendu compte en écoutant le documentaire que ça avait pas de sens, puis qu'il y avait des éléments nouveaux qui méritaient d'être enquêtés par la Sûreté du Québec. Et le directeur de police a fait une intervention et il s'est fait dire en peu de temps, on ne sait pas si c'est un courriel ou uniquement une conversation téléphonée, on lui a dit non, le dossier est clos pour nous, puis il n'y a pas de fait nouveau. Alors, c'est sûr que nous, on veut revenir vers le gouvernement du Québec de ce côté-là, donc on fait ça en parallèle. Et oui, on va monter un dossier parce qu'on a des éléments nouveaux dans le documentaire, mais on a d'autres éléments aussi qui se sont ajoutés en 2024. Et on va intervenir auprès des ministres concernés. Et si c'est le ministre de la Justice, ben on ira là parce que du côté de la sécurité publique, ben on voit qu'on a comme des fins de non-recevoir.
C'est quoi les éléments qui ont été ajoutés en 2024?
Ben, en 2024, parce que là, on a
dire, donnez-moi.
Entre autres un document qui n'a pas été présenté à la commission Lacerte-Lamontagne. Alors, lorsqu'on parle de la fameuse deuxième balle, là, ben ça n'a pas été présenté, puis on a une preuve documentaire là-dessus, qui avait été déjà présentée au ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, à l'époque, et que ça n'a pas été présenté devant la commission Lacerte-Lamontagne au milieu des années 90.
Monsieur Dupont, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, ben c'est ça, dans le documentaire, celui qui a il y a un photographe, Trois-Vieilles, qui a développé des négatifs pour la commission d'enquête. C'est dans le documentaire de Stéphane Berthomé. Puis cette personne a dit qu'elle a développé 8 à 9 négatifs qu'on voulait montrer au complet à l'autopsie à Montréal. Sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Bon. Mais ces photos-là sont pas aux archives nationales, parce que la commission d'enquête, tout a été déposé aux archives nationales. Moi, j'ai été faire des recherches, Stéphane aussi, puis on a fait tout notre travail, là. Les 8-9 photos que le photographe parle, là, sont pas aux archives nationales. Ça s'ajoute avec le document que Denis vient de parler. Là. Comment ça que la commission cache des photos de mon père qui est nu à l'autopsie, puis qu'on verrait les 2 trous dans le dos, les 2 plaies de 10 mm. S'il y a 2 plaies de 10 mm dans le dos, ça veut dire que c'est 2 entrées de balles, ça.
Okay. Il était tué ailleurs que dans l'auto de police. Il était tué dans un autre auto, supposément d'après des personnes que j'ai rencontrées. Puis ils ont maquillé ça en suicide sur le boulevard Saint-Jean. Il aurait été tué à Champlain. Là. Il avait été détenu dans un chalet qui appartenait à des salauds. Là.
Ouais.
Puis il aurait été tué là, à Champlain. Puis il aurait manipulé le meurtre en suicide sur le boulevard Saint-Jean.
Parce que dans
le même Hubert, qui était suspendu au début de la commission de police en 69 par une magouille politique qui a été réinstallée deux semaines après. Puis là, il était supposé faire du travail de bureau. Bon. Ben ça se donne que c'est lui qui a finalisé l'enquête de mon père dans le fond d'impact avec un coroner. Ça se fait pas, ça, là. Ils ont finalisé le dossier au Parc Sainte-Marguerite, dans la paroisse qu'on est né. Puis, il dit que telle personne sont pas là. Il y a des photos qui sont déposées, 7 photos. Ça se donne que moi, j'ai parti avec 14 ans. Puis quand j'ai recommencé à me mêler là-dedans, en 82, suite à la deuxième commission de police qui est à Trois-Rivières, j'ai rencontré le ministre Denis Vaurois. Il dit, Robert, je vais t'envoyer à la commission de police, vu qu'il y avait une deuxième enquête. Puis là, ils sont venus à la maison, puis là, j'ai sorti les 7 photos. Il dit, comment ça que t'as ça, toi? Ben, c'est un dossier de police, t'as pas d'affaire, ouais, ça. Ben, je les ai pris pendant la commission, parce que c'était une commission bidon, ça. L'affaire du coroner Chartier. Ben, il dit, voyons donc. Ben, il dit, là, ils les ont saisis. Là, ces 7 photos-là, là, il y en a une qui est bien importante. C'est quand on voit mon père sur le côté du chauffeur, qui est versé vers la droite. Puis, il y aurait un impact de balle au niveau de l'omoplate, dans le trench. Parce qu'il y aurait une brûlure. Ça, des personnes qui ont témoigné là-dessus. Il y a une brûlure au niveau de l'omoplate, dans le trench coat. Mais la photo qui est claire est disparue. Ils ont fait des photos. Ça s'est rendu, mon père, un trench bleu. On ne la voit plus, l'impact, là. Mais la vraie photo a disparu. Puis là, je t'ai parlé tantôt d'un monsieur, un photographe qui aurait 8 négatifs à 9 négatifs, qui aurait développé qu'on voit mon père oui. au complet à l'autopsie. Mais là, il manque des photos. Il y a des témoins qui n'ont pas été retenus. Puis là, on a un document qui certifie, à partir de la Sûreté du Québec, déposé à M. Sermanard, qu'il y aura un deuxième impact de balle. Là. Je pense que ça n'intéresse plus la sécurité publique 55 ans après. Là, on est rendu au ministère de la Justice. Il y a de l'omission de preuves. C'est volontaire.
Non, en même temps, faut que la vérité sorte à un moment donné.
Ben là, M. Dupont, il faut que ça finisse.
Puis qu'est-ce qui vous a permis de croire, à vous et votre famille, puis les gens qui se sont intéressés au dossier, que votre père avait été séquestré? Puis vous m'avez parlé d'un chalet tout à l'heure. Dans le documentaire aussi, on parle de ce fameux chalet-là. Chalet qui a été mis en doute par la Sûreté du Québec en disant ce chalet-là n'existe pas. Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça, que votre père avait été séquestré?
Ben moi, c'est parce que Pierre Corbin, qui travaillait dans des bars dans ce temps-là, lui, puis il travaillait dans les hôtels, justement, là, qui avaient de la grosse prostitution, puis il connaissait ces policiers-là corrompus. Puis il a eu l'information, lui, à savoir que mon père aurait été détenu dans ce chalet-là, Champlain, pendant quelques jours, puis que c'est là qu'il aurait été transféré d'auto dans l'auto d'Hubert, justement, puis qu'en embarquant dans l'auto d'Hubert, c'est là qu'Hubert l'a retiré dans le dos, puis il serait décédé dans l'auto d'Hubert. Puis, Hubert a fait brûler, ici, à Trois-Rivières, dans le temps, à côté de l'université, c'était des terrains vagues, ça. Il aurait fait brûler son auto, que mon père aurait tué dedans. Puis là, il aurait mis mon père dans l'auto de police qui était parti avec le 5 novembre. Puis il aurait fait ça comme un suicide sur le bois Saint-Jean. Mais son auto, c'est lui qui l'a fait brûler. Puis c'est lui-même, vu qu'il était lieutenant détective, c'est lui-même qui s'est emparé de l'enquête du vol de son auto, puis il l'aurait fait brûler. Ça, c'est Pierre Corbin qui nous a conté ça. Puis moi, je crois que c'est ça la vérité.
Monsieur...
Parce que ça concorde avec ce que ma mère a toujours dit. Mon père, il avait peur de Jean-Marie Hubert, puis de Robert Gignac, puis ça donne que ça concorde avec ce que Pierre Corbin est arrivé, là. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus.
Monsieur Foucault, vous avez été journaliste longtemps. Des histoires comme le sergent-détective Louis-Georges Dupont à Trois-Rivières, ça n'existe pas nulle part au Canada. Je n'ai jamais entendu parler d'une histoire semblable.
Ah, c'est une histoire qu'on pourrait dire même de film. Donc, c'est pour ça qu'il y a des éléments comme ça. La liste est tellement longue, puis Robert les a pas tous nommés, les réponses qu'on n'a pas obtenues au niveau des questions. Juste l'idée du chalet dont on vient juste de parler,
oui.
Ben, la journaliste d'enquête, Mylène Moisan, l'a démontré que le chalet existait bel et bien après le décès de Louis-Georges Dupont. Donc, elle a des relevés topographiques, donc c'est de l'information factuelle. Donc, ça ne peut pas être contesté. Alors, de dire qu'il y a des témoins qui en ont parlé à Stéphane Berthomé, qu'il y avait des policiers qui se retrouvaient avec des danseuses, donc de la prostitution dans ce chalet, c'était vrai. Donc, on peut pas défaire ces éléments-là. Pourquoi la commission La Serre la Montagne a donné beaucoup de crédibilité à Jean-Marie Hubert, alors que c'était un policier qui a été congédié par la ville de Trois-Rivières? Donc, c'est comment ça, c'est juste ça, juste cet élément-là. Comment on peut faire foi d'un témoignage de quelqu'un qui, à peine au début d'une enquête, mentionne déjà la cause du suicide dès le départ? Donc, il a orienté déjà l'enquête, il a orienté déjà des gens. Alors, c'est ce que je comprends pas. Déjà, dès le départ, ça ne fonctionne pas. C'est déjà trop gros. Moi, je peux vous faire un parallèle, là. Avec la politique, là, on entend souvent des inepties de Donald Trump aux États-Unis, puis on se dit, voyons donc, ça n'a aucun sens. Ben, dans l'affaire Dupont, depuis 55 ans, moi, j'ai couvert la commission La Serre la Montagne et les audiences aussi du juge Yvan Saint-Julien, et là, je voyais beaucoup d'invraisemblances de cette nature-là, et c'est pour ça que je trouve que ça a du sens qu'on se retrouve encore du côté de la famille à maintenir cette lutte, ce combat. Et on parle de Stéphane Berthomé, ceux qui en entendent parler pour la première fois de l'affaire là, actuellement, là. Mais Stéphane Berthomé, c'est un ancien policier en France.
Un ex-enquêteur,
et qui est venu au Québec.
Ouais.
Et là, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du documentaire. Puis au départ, ce qu'il disait à la famille, c'était pas quelque chose d'organisé en disant, bon, on va montrer que ton père a été vraiment assassiné. Non, lui, il a voulu reprendre comme tel tout le travail d'enquête. Puis il dit, on va voir ce qu'il en est. Mais lui-même est arrivé aux mêmes conclusions que la famille. Et ça a été, je dois vous dire, un travail gigantesque, titanesque de Jacques, qui est décédé, le frère de Robert, il y a maintenant un peu plus d'un an. Et Robert qui maintient comme tel la cause. Puis c'est une question de dignité, parce que quand on a des discussions ensemble, Robert et moi, mais c'est pas pour des questions d'argent, c'est vraiment pour réhabiliter la mort de son père, donc réhabiliter la mémoire de son père.
En espérant que la politique vous écoute, M. Foucault ainsi que M. Dupont, la famille Dupont, vous êtes des tenaces, puis j'espère que vous allez réussir à rendre justice à votre
père. Parce qu'au moins, avoir la conscience tranquille.
Exactement, puis à un moment donné, ben, redonner à votre père ce qu'il mérite, c'est-à-dire...
Exactement, c'est ça le combat qu'on continue, là.
Exact. Un gros merci.
Pour avoir 70 ans bientôt, fait qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Hein.
Oui, mais vous sonnez encore très jeune, là.
Oui, mais c'est ça pareil.
Lâchez pas, puis un gros merci pour l'entrevue aujourd'hui.
Ben, c'est nous autres qui vont.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir. Bye bye, Robert Dupont, qui est fils de Louis-Georges Dupont, et Denis Foucault, qui est porte-parole de la famille. On parle de l'étrange mort de Louis-Georges Dupont. Quelque chose qui est arrivé le 10 novembre 1969. Le policier Louis-Georges Dupont, qui est retrouvé mort dans son véhicule de service. On parle d'une enquête qui a été bouclée très, très rapidement. Puis on a conclu rapidement un suicide. Et les éléments de preuve qu'on a ressortis quelques années plus tard démontrent clairement que ce n'était pas un suicide. Là, c'était probablement un meurtre. Et encore à ce jour, après plus de 50 ans, la famille se bat pour savoir le fin fond de l'histoire de tout ça. Et on ne semble pas vouloir rouvrir le dossier parce que ça semble être une plaie très infectée, mais qui s'est refermée. T'sais, on ne veut pas la rouvrir en disant, attends, il y a des policiers ripoux, on va être obligé de sortir leur nom.
On a peur.
Il y a des
de
familles qui vont être entachées.
Tout le pu qu'il y a là-dedans.
La perte de confiance du public envers les autorités. Ça semble être très lourd à ouvrir, cette filière-là du policier Louis-Georges Dupont. Puis, quand je pense qu'il y a des membres de la famille qui sont encore en vie, qui veulent faire reconnaître le meurtre de leur père plutôt que le suicide de leur père. Puis, des messieurs comme Denis Foucault, qui sont d'excellents communicateurs, qui aiguille un peu la famille Dupont pour dire, bien, regarde, voici ce que vous pouvez dire, voici ce que vous ne pouvez pas dire, parce que si jamais il y a une enquête plus tard, ça peut peut-être revenir sur le nez. Donc, Denis Foucault qui fait une bonne job à cet effet-là. Moi, ça fait depuis 2006 que je fais de la radio. Je dois avoir entendu ça peut-être une bonne vingtaine de fois, mettons, l'affaire Dupont.
Cette histoire-là.
Puis quand j'ai été à Trois-Rivières, je l'ai entendu à tous les fois que j'y ai été.
Fait que ça a marqué beaucoup de
personnes. Ça a marqué
personnes.
Beaucoup.
Avec raison, parce que quand on entend tous ces faits-là, on se rend compte d'à quel point il y a eu du laisser-aller, il y a eu de la cachette. Puis ça peut juste réveiller de la frustration à l'intérieur.
Ben, c'est clair.
Tu peux pas écouter cette histoire-là. Tu peux pas écouter Robert Dupont parler de son père qui est décédé alors qu'il avait 14 ans puis rester insensible. Tu as envie pour M. Dupont que ça avance. Tu as envie qu'il y ait justice. Lui, il a perdu dans les dernières années son frère et sa sœur, les deux autres enfants de Louis-Georges Dupont. Puis il a décidé de continuer de mener ce combat-là. Comme il disait, il est rendu à 70 ans. Puis quand il t'a posé la question, là, ça m'a frappé à un moment donné, il t'a posé la question, « C'est-tu normal qu'au Québec, notre famille ait besoin d'aller se placer devant les caméras pour faire des documentaires, pour faire des émissions, pour faire des entrevues, pour faire avancer ce dossier-là? » La réponse est définitivement non. Je pense pas que ce monsieur-là, ce soit un kid Kodak, là. Il fait vraiment pour qu'il y ait justice pour son père. Puis personnellement, c'est une histoire que je connaissais moins. Puis j'étais très heureuse d'entendre ces deux interlocuteurs-là aujourd'hui.
Écoutez le documentaire « L'affaire Dupont », le combat d'une famille, surtout Point TV. Puis vous allez avoir une plus grande idée là, de toute l'affaire du policier Louis-Georges Dupont. Peut-être qu'un jour, on en saura un peu plus sur le dénouement final, mais on sait. Tu sais, il y a un vieil animateur de radio qui travaille malheureusement un peu à radio. Il est mort. Il disait... Quand ça a de l'air de la marde, quand ça sent la marde, quand ça goûte la marde, c'est de la marde. Bon.
C'est sage.
C'est dit de même, ça a de l'air bizarre, mais dans l'affaire Dupont, ça a de l'air vraiment d'un meurtre. Et c'est possiblement un meurtre avec tous les nouveaux éléments qu'on a appris dans le documentaire « L'affaire Dupont ». 10h51, on fait une courte pause. Vous avez des choses à me dire, c'est le 418-971-1021. Hello, le numéro de téléphone?
780-1021.
Ah oui?
J'ai eu un blanc tantôt.
Ouais, non, t'étais bonne.
Ce segment d'émission présenté...
On a-tu des nouvelles, Hello, concernant le fameux pont Jacques-Cartier à Montréal? Bon, ça nous touche peut-être un peu moins à Québec, quoique c'est déjà arrivé, mais le pont Jacques-Cartier qui a été la cible d'environnementalistes extrémistes qui ont décidé de monter sur le pont Jacques-Cartier, ce qui a donné lieu à la fermeture du pont Jacques-Cartier. Honnêtement, la sûreté...
Ça semble toujours être en cours, ouais, Yann. Ouais.
La sûreté du Québec, la police de Montréal devrait être intolérant envers ces individus-là et y aller assez vite. Tu sais, non, tu prends pas comme 3 heures ou 4 heures pour négocier. Ah, oh, il va-tu se tirer en bas ou pas? Non, tu t'en vas le chercher, puis tu l'amènes en bas, puis tu y mets les menottes et tu procèdes à son arrestation très rapidement. Plutôt que de leur laisser faire le show pendant des heures et des heures, créer un bordel total à Montréal. Là, tu fermes le pont Jacques-Cartier.
C'est parce que c'est dangereux, en fait.
Comment ça va, Montréal, avec un pont en moins? Ah! Oh, excusez.
Réjouis-toi pas du malheur des autres,
non,
OK?
Non, mais je veux dire...
Ça nous retombe toujours sur le nez, Yannick Marceau.
Ils ont une escouade tactique, là. Tu t'en vas chercher ça rapidement, là. Tu vois deux zigotos qui décident de monter. Tu attends pas qu'ils arrivent jusqu'en haut. Non, non, ils arrivent.
Ah ouais, en bas?
Ils arrivent et ils s'en vont les chercher. Ils ramassent les cochonneries. Ils pêchent les cochonneries en bas, ramènent les gars en bas. Menottes, merci, bonsoir.
Mais qu'est-ce qui les en empêche, pour vrai?
Ben souvent, c'est de la négociation. Puis, tu sais, si le gars décide qu'il se tire en bas, c'est mal vu, là. Ben... Tu comprends?
Définitivement. Puis, tu sais, je comprends. Ben, en tout cas, j'imagine qu'il y a deux façons de gérer ça. Quand c'est quelqu'un qui menace de s'enlever la vie, c'est une chose.
Ouais.
Quand c'est quelqu'un qui est là à des fins de manifestation pour donner un spectacle puis nuire aux automobilistes, je trouve que c'est une autre façon de traiter ça, non?
Puis, tu sais, les amendes devraient être extrêmement sévères.
Oui, mais comme je le disais, c'est parce que tu mets littéralement la vie de gens en danger. Quand tu crées ce trafic-là, quand tu bloques des accès à des hôpitaux...
Ouais,
à des...
les ambulances, les autorités policières, t'as raison, les pompiers.
Ben c'est ça. Ouais. Imagine, là, tu sais, il y a peut-être des gens qui s'en allaient vers l'hôpital.
T'sais, fait que donner 50 000 d'amende à quelqu'un qui travaille pas et qui fait juste manifester dans la vie, c'est une bonne idée.
Donner 50 000 d'amende à quelqu'un qui met d'autres personnes en danger...
Des années 30,
c'est,
là,
c'est
c'était pas
du
compliqué.
Jugement sur son travail ou son occupation ou ses valeurs.
Ouais,
c'est juste
ça...
le fait, le dommage qu'il crée, le danger qu'il fait. Moi, c'est ça qui me dérange.
Dans les années 30, là, il y en a un qui décidait de monter sur le pont à Montréal. Là. T'arrivais, il n'y avait pas de caméra. Tu ne monteras plus sur le pont. Toi.
C'était tellement mieux la vie des années 30. Hein?
Tu allais le reconduire chez eux, puis tu passais peut-être chez le dentiste avant. Après ça, tu allais le reconduire chez eux, puis tu disais, recommence plus. Aujourd'hui, il faut que tu négocies.
Je m'ennuie de ces années-là, les années 30. Hein? J'aurais été obligé de faire 18 enfants, puis
toi,
la religion.
T'en serais-tu rendu à 18, de vrai?
Eh oui, check, moi, je suis clairement faite pour être une maman.
C'était des Wonder Woman.
Incroyable.
Moi, j'en ai connu une arrière-grand-mère. C'est
l'arrière-grand-mère de mes petits gars à moi. Et à 80 ans, elle avait encore son plancher à quatre pattes. Elle a eu 13 enfants.
Elle avait son plancher à quatre pattes.
À 80.
Sais-tu pourquoi? Elle ne pouvait plus rester debout avec le nombre d'enfants qu'elle a eu.
Ah non, non, elle est encore top shape aujourd'hui, malheureusement. Elle est décédée de vieillesse.
Mais quand même, 80. Mais... Déjà avoir 80 en forme, là, c'est du top.
Puis elle avait son plancher à quatre pattes. Je l'avais surpris à un moment donné. Elle devait s'occuper de mon plus vieux parce qu'on était sur des contrats différents, moi et la mère. Puis elle aimait bien mes enfants. Puis je l'avais surpris avec mon plus vieux. Mon plus jeune était ailleurs. Elle était en train de jouer au hockey.
Ben voyons.
80 ans, elle jouait au hockey avec mon plus jeune qui avait Josh à l'époque, il devait avoir 2-3 ans. Puis je regardais comme pendant 5 minutes au travers de la porte tellement je trouvais ça beau.
Ben oui.
Ouais. Puis elle se levait genre à 4-5 heures du matin pour faire les déjeuners pour les enfants. Je répète, elle en avait 13. Puis il y en avait un là-dedans qui est mon ancien beau-père, qui était l'enfant probablement le plus difficile au niveau de la nourriture, ce qui fait en sorte que mes enfants ont son ADN à lui.
Ah oui?
Et quand je fais de la bouffe, c'est à cause de leur grand-père que mes enfants chiolent. Et il y avait toutes des petites particularités, les enfants. Puis elle faisait des repas différents, des fois, pour les enfants.
Ben voyons donc.
Puis après ça, ben sa journée startait. Les enfants, il fallait les habiller pour aller à l'école, tout ça. Après ça, elle faisait la vaisselle. Après ça, elle startait pour le midi. Les enfants venaient manger à la maison le midi. T'avais pas de Québec soldats qui disaient « Êtes-vous tanné de faire des lunchs pour un enfant? Ben nous, on veut nourrir le Québec! » Non, non, elle nourrissait ses 13 enfants.
C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent « Il y a des enfants qui mangent pas, faut qu'ils mangent! »
Ouais, mais ça c'est de la démagogie parce qu'on est toutes là pour nourrir les enfants qui mangent pas. Mais à savoir, est-ce que la responsabilité des parents, est-ce que c'est une responsabilité des parents de nourrir les enfants? La réponse est oui. T'sais, tu choisis d'avoir un enfant, donc tu choisis de le nourrir. Tu n'as pas le choix. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il faut les aider, les moins bien nantis. Mais cela dit, elle faisait 13 repas le matin, le midi, le soir. Elle se levait à 4 heures du matin, elle faisait le ménage, elle faisait la vaisselle, elle faisait tout, puis elle se couchait à 1 heure du matin complètement brûlée. Puis le lendemain, ça recommençait.
Hey, moi, juste laver la
jusqu'à 80.
Juste laver la chaise haute 3 fois par jour, là, Yann. Là. Je suis en train d'apprendre à ma fille de 13 mois comment la laver, sa chaise haute. Ta pogne, je suis déjà tannée. Imagine 13 personnes. C'est
ma blonde
incroyable.
A lavé. En fin de semaine, j'ai rigolé, là. J'ai ri un peu d'elle. Puis je me permets de dire à la radio, c'est pas grave. Je la vois pas à soir, fait que j'ai pas besoin de faire des mamours. Elle a lavé le comptoir 4 fois samedi. Puis elle me l'a dit, elle dit, ça n'a pas de bon sens, faut toujours recommencer. Hein?
Hey, mais c'est fou.
C'est quoi, chérie? Well... Je t'annonce que demain, ça va être la même affaire.
Ah ouais, crime qu'on recommence tout le temps. Là. Puis, tu sais, Facebook maintenant, il y a environ 30% du contenu que tu vois passer sur Facebook qui est du contenu suggéré, recommandé. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement tes amis qui ont publié ce contenu-là, c'est vraiment Facebook qui a ciblé que selon tes intérêts, ce que tu regardes sur Internet, les choses que tu dis à tes amis dans tes soupers de sacoche, faut pas le dire trop fort, là, mais...
Parlant mal des gars!
selon tous ces intérêts-là, Facebook va te faire des suggestions. Il y a 30% du contenu qui est du contenu suggéré. Puis j'avais une publication suggérée dans les derniers jours où est-ce que c'était une photo d'une cuisine dans une belle maison. Tu sais, tu vois que c'est une maison de gens qui sont confortables financièrement, puis tout ça. Puis il y a des affaires qui traînent sur le comptoir. Il y a des bottes à terre. Tu as des assiettes sur le comptoir. Le lave-vaisselle est semi-ouvert. Il y a des affaires qui n'ont pas rapport. Il y a, tu sais, le fameux pot à tout, là. Tu sais, tu as un pot avec comme des batteries qui ne servent plus, des crayons qui ne marchent plus,
Moi, c'est l'espace-pied pour mon passager qui n'est jamais là, là.
Bon, oui.
Bon, ben mon espace-pied, c'est là où je mets à peu près tout.
C'est ton pot à tout.
C'est mon pot à tout.
Fait que je vois cette photo-là qui apparaît sur Facebook, puis je lis un peu qu'est-ce qui est décrit, puis c'est comme une lettre d'une maman qui dit « Vous ne me croirez pas, là, mais regardez cette photo-là. J'ai passé la journée à faire du ménage. J'ai passé la journée à torcher. » À environ 5 fois dans la journée, cet espace est devenu propre et c'est resaillé.
Ouais, c'est ça.
J'ai 3 enfants. je sens que je n'ai jamais lâché la pédale de la journée et regardé quand même ma maison. Puis honnêtement, là, cette petite photo-là, là, qu'elle soit stagée ou pas, ce petit message-là, ça m'a tellement fait du bien. C'est un éternel recommencement.
Oui, c'est tout le temps. C'est tout le temps ça. Puis, tu sais, peut-être que les choses ont changé, mais... Les arrière-grand-mères travaillaient en sacrifice. Puis les arrière-grand-pères aussi travaillaient en sacrifice. Tu sais, on est qui, nous autres, pour aller les voir, là, s'ils sont encore en vie, pour dire, « Hey, pour nous autres, la vie est dure en 2024. »
Ben, tu sais...
Hey, je fais plus ma vaisselle, c'est mon lave-vaisselle qui fait la vaisselle. Je fais plus mon lavage à main, j'ai la laveuse. Je le fais plus sécher dehors, à corde à linge, avec les petits clips, là. Je le fais sécher dans ma sécheuse. La vie n'a jamais été aussi facile, puis on se plaint encore. Mais je le comprends, c'est parce qu'on n'avait rien connu d'autre avant. Tu sais, c'est sûr que si t'as connu la guerre, mettons, à la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça, t'arrives à Québec, puis là, il y en a qui disent « Ouais, la violence a augmenté un peu dans les rues. » Tu dis « Non, non, ça n'existe pas, la violence, ouais. là. »
C'est un bon exemple, là, ce que tu dis, que tout est relatif selon ce que tu as vécu par le passé. Je pense aussi que c'était très difficile physiquement, puis il y avait moins d'outils à l'époque. Je pense aussi que les gens avaient peut-être moins d'outils. Tu sais, on parlait moins de santé mentale. On réglait ses problèmes de d'autres façons.
Avec l'alcool.
Comme ça, avec l'alcool. Ça se résultait en violence. Parfois, il y en avait beaucoup plus dans les foyers et tout. C'était pas une époque qui était facile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres raisons qui font en sorte que certaines personnes peuvent trouver la vie difficile. Puis je pense qu'on est un peu tricotés pour trouver la vie difficile. Notre corps, notre mental sont faits pour avoir des stress, pour nous protéger. Fait que peu importe, même si tu vis dans des circonstances où est-ce que tu es dans la plus belle petite boîte avec du papier bulle, tu vas toujours trouver un peu moyen de te plaindre pareil. Mais je pense que quand tu vis des choses difficiles, après... t'as beaucoup plus de gratitude dans des situations, des petits bonheurs de la vie. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de pas juste protéger tout le temps les gens autour de soi puis de les laisser vivre un peu de chenoute des fois.
Voilà, voilà. C'est-tu bien dit, ça? Ça, c'est une maman qui parle. Ah! Et là, Didéry, tu me parles d'intelligence artificielle.
C'est une fille qui en a arraché un petit peu par moment qui parle, c'est surtout ça.
Quelqu'un qui dit « Ta journée la plus dure a été la plus facile que la meilleure journée de nos ancêtres. »
Oh!
Ouais,
c'est bon.
Bien dit, c'est bien dit.
Ouais, ben, tu vois, je préparais un peu le terrain en parlant du 30% de contenu qui nous est proposé sur les médias sociaux. C'est fou, tu sais, à la base, on a téléchargé Facebook, on s'est lancé là-dedans sans trop savoir ce que c'était, puis tout ce qu'on voyait, c'était le contenu que nos amis publiaient. On voyait la photo du souper de l'un, on voyait la sortie en famille aux pommes de l'autre.
Ouais. T'as-tu déjà regardé tes premières publications sur Facebook en 2006?
À toutes les fois que je les vois, j'ai honte, là. Toujours comme « Oh my God, j'ai mal à la vie, c'était pas fait... »«
Oh my God, Mathieu Marcotte est tellement chaud! »
Non. Non, hein? C'est pas ça que j'écrivais, hein? OK? Mais c'était « Oh my God, j'ai tellement mal à la vie, grosse soirée au campus hier. » Ouais. Le campus, c'était le bar à Jonquière.
On comprenait absolument rien des réseaux sociaux.
Ah oh, non, ben à l'époque, c'était ça. On disait ce qu'on faisait, on disait notre état d'âme, puis il y avait juste nos amis qui le voyaient et tout.
Je prends une bière, point.
Point, enter. Tu sais? À cette heure, ben oui, tu vois quelques-unes des publications, des gens, des qui tu tiens le plus au fait, au courant, passé, mais en général, il y a 30 % des publications sur ton fil d'actualité qui sont suggérées. Sur Instagram, c'est environ la moitié. Fait que la moitié, tu n'as même pas choisi de suivre quelqu'un puis ça va t'être pitché. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir maintenant que dans ce contenu qui t'est suggéré, il y a environ un autre 40 % qui est complètement faux et généré par l'intelligence artificielle.
Hein?
Parmi les publications les plus populaires des dernières années sur Facebook, qui ont généré le plus d'engagement, de réactions, de commentaires, de like, j'aime, ri, pleure, ben c'est des publications de personnes qui n'ont même pas existé. Exemple. Tu vois une photo d'un couple qui se tient la main, OK, en noir et blanc devant une église. Tu vois que la photo est vieille, mais peut-être un petit peu restaurée.
Ouais.
Puis après ça, tu vois une photo du même couple placée dans la même, sensiblement dans la même position devant une maison. Puis là, il est écrit « Oh my God, ils ont 103 et 101 ans et ça fait aujourd'hui 80 années qu'ils sont ensemble. » Et là, les messages, toi, 10 900 commentaires, 9000 partages, 486 000
positif
likes.
Positif ou négatif en majorité?
Tout le monde qui est comme « Mais c'est tellement beau, je veux vivre ça, moi aussi, c'est magnifique. » Les gens qui s'extasient devant ce beau couple qui n'a jamais existé. C'est des photos de l'intelligence artificielle.
Okay.
Ça, là, les amis, vous envoyez à longueur de journée dans votre contenu suggéré sur les médias sociaux. Vous en rendez même pas compte. Des articles que vous consultez sur des sites web.
Donc, les filles qui répondent pas à Max sur Tinder pourraient être de l'intelligence artificielle.
Ah,
même l'intelligence artificielle sait qu'il faut pas répondre à Max. C'est malade.
Et que c'est intelligent, cette intelligence-là.
C'est malade. Ah, ouais. Mais tu vois, j'aurais plus pensé que les gens qui étaient portés à donner leur opinion sur le 80 ans ensemble, moi, les gens qui m'ont accueilli dans leur famille très jeune, c'est-à-dire quelques semaines là, de vie, sont encore ensemble à ce jour. Ça fait 60 ans.
Ah, c'est beau.
Ils ont 80 les deux. Bon, Gigi, je veux pas te vieillir, mais avoir bon, 80, OK? Et ils ont pas de l'air de tout ça. Gigi a de l'air de 55. Mais c'est beau. C'est beau quand tu les vois. Puis je suis pas mal persuadé que si j'avais une discussion avec les deux, il y a eu des moments où c'était pas facile. Là. Comme dans toutes les couples. Là.
Comme dans toutes les relations.
Puis est-ce que s'ils avaient vécu, mettons, leur premier cinquième anniversaire en 2024, premier anniversaire de mariage, ou leur dixième anniversaire de mariage en 2024, est-ce qu'ils seraient encore ensemble aujourd'hui? Je sais pas.
Il y a eu une époque où on se divorçait pas.
C'est ça, ça n'existait pas.
Où on se divorçait peu, mais ça faisait partie vraiment... Tu sais, il y a des couples qui enduraient des choses terribles juste parce que ça se faisait pas de partir tout seul. Tu sais, on pense à une époque où est-ce que les femmes ne travaillaient pas, où est-ce qu'elles étaient au foyer. Ben quelle indépendance, quelle autonomie tu peux avoir? Puis, tu sais, tu pars avec quoi? Tu pars avec tes 18 enfants? Tu vas où? Tu sais, c'est... Les choses ont changé. Mais en effet, ça fait partie des publications que vous allez voir qui sont complètement générées par l'intelligence artificielle. Puis j'aime ça que tu me poses la question dans les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent? Bien encore, quand vous voyez une publication en dessous de laquelle il y a énormément de commentaires, là, il y a bien des chances que ce soit des robots qui se parlent entre eux. Tu sais, tu vas avoir une publication, une pub pour une nouvelle serviette en microfibre qui essuie donc bien tant de fois son poids en eau puis tout ça. Ce serait pas très sexy de publier une pub puis qu'il n'y ait pas de commentaires en dessous de gens satisfaits du produit. Fait que là, les gens vont payer pour avoir une compagnie qui génère des commentaires avec l'intelligence artificielle. Puis tu vas voir des gens avec des noms québécois, avec des profils qui ont quand même de l'allure, qui vont commenter puis qui vont même parler entre eux pour vanter l'efficacité de cette nouvelle serviette révolutionnaire.
Oui, tu sais, mais j'haïs quand les gouvernements prennent ils mettent des lois en place, parce que j'ai souvent l'impression que les lois ont été mises en place dans notre société pour les plus débiles de la société. Bon, on a mis 100 km/h sur l'autoroute, limite maximale de vitesse, parce qu'il y en a qu'à 100, ils sont vraiment dangereux, puis on se dit, regarde, faut les conserver là, tu sais. Mais dans ça peut être trompeur, là, la publicité. Mettons, je sais pas, moi, tu regardes pour un hôtel à Québec, tu dis « Tabarouette, 10 000 messages super positifs sur cet hôtel-là. » Puis tu te rends compte que c'est juste un hôtel qui a embauché une entreprise qui a des robots d'intelligence artificielle qui passent des commentaires par-ci, par-là pour faire bien paraître l'hôtel, alors que l'hôtel, c'est un hôtel bien ordinaire. Je veux dire, ça joue dans la tête des gens. Fait que le gouvernement pourrait mettre en place un genre de « ce contenu a été généré par l'intelligence artificielle » comme on le fait actuellement pour certains médias.
Oui, c'est vrai.
Mais pour ce qui est de la publicité, il faudrait que ça se fasse aussi.
On le fait pour des médias. Il y a des articles que vous allez lire là, sur des sites d'actualité. Tu sais, où est-ce que vous allez lire? Bon, ben, ce contenu a été généré par l'intelligence artificielle. Fait que ça peut vous faire être un petit peu plus alerte. Tu sais, juste savoir, ben, y a-t-il des subtilités dans le texte et tout ça? Je pense que c'est important de le faire. Aussi, sur Instagram, je ne sais pas si c'est comme ça sur d'autres médias sociaux, mais je sais que sur Instagram, quand tu publies des photos qui ont été modifiées ou générées par l'intelligence artificielle,
ça le dit.
Ça va te suggérer, donc ça ne t'oblige pas à le mettre, mais ça va te suggérer d'ajouter une mention que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Okay.
Moi, j'obligerais toutes les filles qui mettent des filtres sur les réseaux sociaux que ça soit inscrit qu'il y a un filtre.
Ben, c'est une bonne idée. C'est très bonne. Ça m'aiderait à être mieux avec moi-même.
T'en mets-tu?
Des filtres?
Ouais.
Je me suis déjà caché une coupe de cernes ou de boutons.
C'est vrai?
Ouais, ça m'est déjà arrivé.
Il y en a qui mettent des filtres.
C'est comme là, check, j'ai un bouton ici. Ouais. Là, j'ai mis du make-up dessus, mais on le voit pareil. Là. Mais comme si je prenais une full belle photo puis que je voulais la mettre comme définitivement sur Instagram, ben, peut-être que j'enlèverais le bouton.
Le bouton, ouais. Ouais. En même temps, ça fait partie de la vie, mais j'ai vu un profil Facebook dernièrement, puis bien entendu, je le nommerai pas, là, mais la fille avait des photos avec ses enfants, mais comme elle applique... Oui, ben c'est pour ça que je regarde la photo. Excusez.
Les gens sur Twitch
ont compris. J'aime tellement ça travailler à la radio. Là. Vous voyez pas mes mains. Mais bref, je m'en étais pas rendu compte. Mais oui, c'était probablement pour ça que je regardais les photos. Puis,
Je prends une note, ça s'en va. Ça s'en va sur nos médias sociaux. Ah,
j'espère que la caméra n'était pas dans le bon sens.
11h14.
Mais la fille avait un filtre sur sa face, mais aussi sur ses enfants.
Ah!
Fait que là, tu te dis, mais à quel point tes enfants sont laids pour appliquer des filtres?
Ben, c'est déplacé.
C'est déplacé, mais... Puis, pose-toi des questions, OK? Moi, les photos de mes grands-mères, là, sont toutes à la maison, bien mises, avec une belle robe et tout ça. Puis là, je regarde des fois des photos sur Facebook, OK? Ces gens-là, les gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont encore sexy, prennent des photos dans des positions suggestives. Vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants vont avoir accès à la grand-mère, là.
Ouais.
Sur Facebook, là.
Ouais.
Ça, c'était ma grand-mère. Ça, il va être en l'an 3000. Ça, c'était ma grand-mère en 2024.
Grand-mère sur Grande Allée, en talons hauts en hiver, avec le décolleté, ouais. le bras d'un air, la langue sortie. Ah!
Avec les babines, là, tu sais, de la grosseur du cul d'un singe, là.
Ben... C'est représentatif de ce que grand-maman était. Puis regarde, grand-maman, elle avait du plaisir puis elle avait le droit d'utiliser son corps comme elle voulait.
Là-dessus, là, 100% d'accord.
Merci.
Mais mettons...
Mais oui, c'est moins. C'est moins.
Tu dis, t'es peu, là. Tu vas-tu vraiment laisser ça? Tu sais, puis je laisse pas ma place non plus sur les réseaux sociaux. Là. Des fois, je modifie certaines affaires pour faire rire le monde.
Oui,
puis je me
dis, méchant troll, toi.
Si je meurs demain matin... Mettons que j'ai mis ma photo de profil, là, François Legault déguisé en roi Charles, mettons. Là. Puis je meurs le matin, il n'y aura plus personne pour changer ma photo de profil. Fait que mes gars qui vont retourner sur le Facebook de leur père,
toute
ou
leur
mes
vie.
Gars quand ils auront des enfants.
Le profil commémoratif.
Sa face à François Legault qui est le linge du roi Charles, mettons. Là,
ça, c'est grand-papa Yannick.
Ouais. Des fois, je pensais à ça, je me dis, ça n'a pas de bon sens.
Oh, c'est ouais. drôle.
Mais il faut s'assumer dans la vie, c'est ce qu'ils disent.
Il faut.
Ouais. OK, doux. Y a-tu des choses à jaser encore avant de quitter?
Ben là, ça a l'air que t'as quelque chose de gros là, à annoncer. Là, tu veux pas faire ça maintenant?
Ouais, vers les alentours de 11 heures. Honnêtement, j'ai fait quelques...
De midi, tu veux dire?
Aux alentours de midi, oui, c'est ça. J'ai fait quelques téléphones hier parce qu'il y a une information qui est arrivée à mes oreilles. Puis c'est une information que je trouvais hyper pertinente. Je me disais, ça se peut pas que ça vienne de nulle part, cette affaire-là. Fait que j'ai commencé à faire quelques tests en envoyant des textos à des politiciens de la Ville de Québec et des politiciens de la province de Québec. Et j'ai eu quelques retours, mais les personnes concernées ne m'ont curieusement pas rappelé.
Ah ben!
Sans nécessairement que je leur dise que j'allais les nommer en onde à partir de midi, sauf dans le cas d'un. Puis, je vais vous le dire à midi quand Denis sera là, bien entendu, parce que je veux en jaser avec Denis. Mais ce qui est curieux, c'est qu'actuellement, la Ville de Québec au complet probablement nous écoute.
Ben oui.
Les politiciens aussi du provincial veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans le merveilleux monde de la politique provinciale. Ça chamboulera pas la politique provinciale, mais ça va peut-être amener un dynamisme nouveau dans la course à la mairie de la Ville de Québec. Ça, je pense que je peux le dire. Est-ce que ce sera une candidate? Parce que je vais donner le nom d'une future candidate à la mairie, quelqu'un qui teste ses appuis, quelqu'un qui a approché un parti politique en particulier. Le parti politique en particulier est très, très, très ouvert à prendre cette candidate-là. Donc, je vais vous parler de ça vers les entours de midi. Mais c'est ça. Là, les politiciens à qui j'ai écrit pour leur dire que j'allais les nommer ne m'ont toujours pas écrit.
Ah, j'aime ça. On va être à l'écoute.
C'est triste, hein?
On va être à l'écoute, Marceau, c'est sûr et certain, dès midi. Puis tu vas faire ça donc avec Denis Gravel en studio avec toi aussi.
Exact. Quelqu'un qui dit, c'est Martin qui dit, Yannick, sans parler qu'on va avoir des grands-mères avec des tatouages bientôt. Ça me dérange pas tant, ça.
J'allais poser cette question-là. Tu sais, toi, tu vas être un grand-papa tatoué à grandeur, là.
Oui, mais je veux dire, quand j'étais jeune, il y avait des gens dans mon entourage qui étaient tatoués, là. Mm-hmm. Ça voulait pas dire la même affaire, mais il y avait des gens qui étaient tatoués, là, tu sais, des encres de bateau.
Moi, mon grand-père, ouais. Mon grand-père est tatoué.
Ouais.
Mon grand-père, Georges, il a 85.
Ouais.
Puis sur le bras, il y a sur l'avant-bras, il y a une tête d'Indien.
Une tête d'Indien.
Ouais. Puis il s'est fait faire ça à Montréal dans son cours de mécanique. Avec tous ses chums qui capotaient parce que lui était game de le faire autour de ses 18 ans.
Ouais, c'est ouais. ça. Dans le temps, ça voulait dire peut-être d'autres choses. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Je pense que ça fait partie de ta personnalité, tes tatous.
Ouais.
Est-ce que, tu sais, c'est sûr que la grand-mère ou le grand-père avec des gros tatouages d'en face, ça se peut que ça fasse un peu différent du grand-père que les gens sont supposés d'avoir. Mais ce sera ça. Je veux dire, moi, je n'ai pas de... Tu sais, si tu travailles pas dans le service à la clientèle, tu peux bien faire ce que tu veux que tu fasses, là.
Oui, puis nous autres, on trouve ça plus particulier parce qu'on n'a pas grandi avec le fait que quasiment tout le monde ait des tatous. Mais tu sais, quand tu regardes tes garçons, là, ils ont grandi avec le fait qu'à peu près tout le monde en a.
Ouais.
Ma fille, elle a 13 mois. Elle me pointe le bras, elle dit « Tatou? Tatou? » Elle regarde le bras de mon amie. « Tatou? » Elle sait très bien c'est quoi. Puis elle, elle se fait pas une étiquette de « C'est-tu quelque chose de vulgaire? C'est-tu quelque chose qu'on lie aux criminels ou whatever? » Puis elle le fera pas dans le futur parce que quasiment tout le monde qu'elle va croiser dans la vie va avoir au moins un tatouage. Je sais pas c'est quoi les statistiques à jour, mais je pense que c'est plus rare d'avoir zéro tatouage en 2024, mettons dans la population active, que d'en avoir.
Exact. On fait une courte pause, on revient. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021.
Sa passion.
Audrey Pinchot, qui est supposée être en vacances, puis elle nous envoie des suggestions d'entrevues pour les prochains jours.
Ben oui, mais je comprends. Tu sais, t'es en congé, tu reçois des messages, tu te dis, ah, ça serait bon pour l'émission, je vais l'envoyer aux collègues.
Je pense qu'elle me fait pas confiance pour le choix des sujets. Donc, on va canceller là, tout ce qu'on a mis en place dans les prochains jours.
Parce on va que placer là, les idées à Audrey.
Ouais, on va placer les idées à Audrey. Hey, c'est un 12 degrés qu'on a sur Québec. C'est ensoleillé pour aujourd'hui. On est gâté maximum de 16. Pour ce qui est de mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. C'est quoi? C'est coudonc, c'est-tu l'été des Indiens? Ou des Amérindiens? On a-tu encore le droit de dire ça?
Où tu voudras, quand tu voudras.
Ouais, vite dit de même, c'est bizarre, hello. Jeudi, alternance de soleil et nuages avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 12. Et pour terminer la semaine de travail, ce sera ensoleillé avec un maximum de 10. Hey, je te souhaite de... Profite donc de ta journée, toi.
Oui, je vais essayer. J'ai beaucoup de travail, mais j'aimerais me libérer tôt. Puis j'aimerais ça prendre une belle marche dans le bois.
La petite môme, là, c'est ouais. Ça. Va te promener avec ta petite fille dans le bois.
Ouais.
Fais du bien.
Aller la chercher bien. Un petit peu plus tôt à la garderie, la mettre dans le backpack, puis aller marcher.
Garde-toi.
Merci.
Salut.
Salut.